Introduction à la théologie par le père Philippe à Rimont, le 30 septembre 1992, troisième cours.
Alors on pose de petites questions. Pourquoi est-ce l'écriture et non pas la parole qui est mentionné par le Concile comme source de la théologie? Alors, je dirais, de fait, la parole de Dieu a été transcrite, écrite. L'écriture est gardée dans la tradition. Et l'écriture demande pour nous d'être une parole vivante. Vous voyez, toujours, je crois, ces deux aspects. La parole, c'est très rare que Dieu demande des dictes dans l'Écriture. Il n'y a que le point de vue de l'Apocalypse. Jésus n'a pas écrit une seule fois. Mais il ne nous a pas dit ce qu'il avait écrit, donc il n'a pas écrit. C'était pour les autres. C'était pour les pharisiens, tous les scribes qui attaquaient la pauvre femme adultère. Alors ça devait être leur péché, n'est-ce pas ? Six adultères. Je ne connais point, vous comprenez ? Ça devait être quelque chose d'assez coriace. C'est du reste pour ça que ce n'est pas dit. C'est souvent ce qui arrive, n'est-ce pas ? Jésus le dit lui-même. On voit la paille de l'œil du voisin, donc de cette pauvre femme adultère, et la poutre. Il la voyait pas. Tiens. Donc, Jésus n'a pas écrit. Je dirais, l'écriture est pour la parole et non pas la parole pour l'écriture. La foi adhère à la parole de Dieu. Alors, pourquoi est-ce l'écriture et non la parole qui est mentionnée par le Concile comme source de la théologie ? C'est tout simplement par l'aspect plus objectif. L'écriture est gardée par l'Église, est gardée dans la tradition. Mais l'écriture implique la parole. La parole n'implique pas l'écriture, mais l'écriture implique la parole. Je ne peux pas séparer l'écriture de la parole de Dieu. Et l'écriture est pour moi une parole vivante, parce qu'elle est gardée par la tradition. C'est pour ça que je ne peux pas faire l'exégèse de l'écriture sans la tradition. Vous savez, ce texte très fameux, je vous ai déjà dit à certains du moins, il faut toujours se rappeler de ça. Je me souviens l'avoir commenté une fois à Fribourg, exprès, parce que dans mon auditoire, il y avait un pasteur protestant, il voulait le coincer le plus que je pouvais, amicalement, parce qu'on se connaissait suffisamment pour ça. Alors, c'est le mythe du teute dans Platon, où Platon compare l'écriture et la parole. Et Platon dit, l'écriture ne répond pas, et la parole répond. La tradition fait que l'écriture est gardée dans une interprétation vivante, comme une parole vivante. Pourquoi a-t-on inventé l'herméneutique ? C'est une invention récente, herméneutique. C'est parce que, sous l'influence de la théologie protestante, il n'y a plus la tradition. Par le fait même, on est obligé de remplacer la tradition par l'herméneutique, qui est l'erzas de la tradition. Vous êtes attentif à ça. faut toujours voir d'où vient quelque chose de nouveau dans la théologie. Ce quelque chose de nouveau vient au moment où, entre la théologie catholique et la théologie protestante, il y a comme une fusion. L'exégèse protestante et l'exégèse catholique, il y a une fusion. Aujourd'hui. Or, quelle est la grande différence entre les deux ? C'est que les protestants ont rejeté la tradition et les catholiques l'ont gardée. Oui, les deux sources de la révélation, la tradition et l'écriture. On ne peut pas les séparer. Et c'est par la tradition que l'écriture devient parole. Tu as d'abord parlé. Et on a gardé cette parole dans la tradition. Pour être sûr de bien la garder, on l'a écrite. Tu as demandé qu'on l'écrive, pour être sûr de bien la garder. Mais c'est à cause du conditionnement humain, l'écriture. C'est le conditionnement humain qui a besoin d'écriture. Parce que notre mémoire n'est pas assez fidèle. Si notre mémoire était assez fidèle, on n'aurait pas besoin. Moi, j'ai jamais éprouvé le besoin, quand j'étais avec Marthe, d'écrire. Tandis que Jean Guiton a toujours tout écrit. Non, mais je prends ça comme exemple, vous voyez. Comme une expérience. Jamais éprouvé ce besoin-là. Pourquoi ? Parce que je considérais que la parole de Marthe était une parole qui venait de Dieu. Alors on la garde dans son cœur. Marthe m'aurait dit, écrivez ce que je vous dis, pour être sûr de ne pas l'avoir. J'aurais écrit. Elle n'a jamais dit ça. Je crois que ça l'aurait gêné que j'écrive. Moi, ça me gêne beaucoup quand quelqu'un, je lui dis quelque chose, se met à l'écrire, dit alors, n'aie pas confiance. C'est à cause du conditionnement humain. Là, le concile, pour parler de la théologie, je comprends très bien, parle de l'écriture parce que c'est objectif. Tout le monde peut le lire et puis c'est commun avec les protestants et les catholiques. Mais ma foi repose sur la parole de Dieu. Une parole vivante. Et non pas sur l'écriture. Les discussions se font sur l'écriture. Savoir si ce texte provient de tel ou tel manuscrit. Oui. Je crois que c'est un problème sur lequel il faut être très attentif aujourd'hui. Le problème de la parole et le problème de l'écriture. Et comprendre que l'herméneutique qui a été inventée il n'y a pas longtemps, quoi. Quand j'ai fait de la théologie, on n'a jamais parlé d'herméneutique. C'est que maintenant, on en parle tout le temps. Et on ne peut plus faire un traité de théologie sans voir l'herméneutique. Parce que, de fait, l'herméneutique existe. Parce qu'il y a une distance entre la source de la parole et l'écriture. Vous voyez ? Prenez ça. C'est très important à comprendre ça aujourd'hui. Parce que c'est un des points. Ici, on n'en parle pas. Il n'y a pas un cours d'herméneutique. Il faudrait peut-être en inventer un. Pour au moins voir qu'il ne faut pas s'en servir. Parce qu'autrement, vous risquez, comme toujours, d'avoir un manque. Et dès que vous serez. Au point de vue de l'herméneutique. Ah, on n'a pas vu d'herméneutique. Oh, c'était très intéressant. On se précipite dessus. Comme un fruit défendu. Alors c'est peut-être très utile de faire un cours d'herméneutique. On va demander ça au père Lazare, de la mère de Dieu. Il ferait un excellent cours d'herméneutique. Pour être sûr. Alors vous voyez, saint Paul écrit en l'an 50, je crois, la date exacte, ça. Ça bouge. Saint Jean écrit en l'an 90. Ça bouge aussi. Ou 80. 90, ou 100, presque 100. regardez dans le fond de la Bible. Vous n'avez pas là. La grosse Bible. Pas la petite, hein, la petite, on ne met pas ça. Ah non, c'est sûrement pas dedans, là-dedans. Non, non, on ne vous donne que la parole, là-dedans. On ne vous donne pas l'écriture. Ce que vous le portez sur vous.
Oui, 60.
Combien ?
Les épîtres de Saint-Paul dans
non,
les années...
Luc. Les épîtres de Saint-Paul, c'est tout à fait différent, vous comprenez ? Pas besoin d'herméneutique. Il y en a besoin pour le contexte. Tandis, vous voyez, l'herméneutique, c'est comme ça que ça s'est né. Vous avez Jésus.
Qui 50.
Quoi 50, hein, je crois. Et Jean, entre 90 et 100.
Luc, c'est 67.
Combien?
La vie de Jérusalem dit vers 67.
Luc,
vers 67.
76
67.
Et
95, Saint-Jean.
Voyez, entre deux, c'est ça, exactement. Parce que avant on disait 90, on a dit 100, puis maintenant qu'un millième. In medio stat virtus. Alors, Jésus, 30, à peu près, 30, 33, à peu près. Vous voyez que ici, c'est la source. Ici, on écrit. Écriture. La source, la parole. Comment expliquer cet abîme ? Voyez ? Quand vous aurez 90 ans, n'est-ce pas ? Vous pourrez écrire vos souvenirs. Parce que c'est à la mode. On écrit ses souvenirs. Quittons le siècle. De l'an 2 à l'an 98. Et alors, le siècle. Alors, comment expliquer cet abîme ? Avant de se poser pas la question, il y avait la tradition. La tradition, garder la parole comme une bonne terre. Cette parole était gardée et elle fructifiait. Et puis un jour, on écrit, que fait Luc ? Luc dit qu'il va chercher partout où il y a les sources les plus authentiques, la traduction la plus sûre, pour écrire son livre. Parce qu'avant, il y a Marc et Matthieu. Et Jean ne dit pas qu'il va chercher les sources. Il donne le prologue. Sa source, c'est la contemplation. Alors, entre là, il y a encore un abîme bien plus grand. Avant, on disait la tradition. Si vous supprimez la tradition, qu'est-ce que va représenter ça, cet écrit ? Ça va représenter ce qu'on disait du temps de Saint-Luc, ce qu'on disait du temps de Saint-Jean, ce que Jean prêchait. Oui. Alors, l'herméneutique consiste à essayer de découvrir, de relativiser le dire de Luc et le dire de Jean pour essayer de trouver le noyau primitif. Oui. Critique. L'herméneutique, trouver le noyau primitif, la source, cachée qui passait. Alors c'est pour ça qu'on dit, si Jean dit, le Christ dit, il faut des adorateurs en esprit en vérité, je n'ai pas le droit de dire, Jésus dit, il faut des adorateurs en esprit en vérité. On télescope. C'est Jean qui dit ça, c'est pas Jésus. Et on en arrive alors à dire qu'il n'y a qu'une seule, puisque ça m'a été dit à moi, un exégète respectable, il n'y a qu'une seule parole authentique du Christ, aimez vos ennemis. Le reste, selon l'herméneutique, ça dépend du milieu. Le milieu. voyez, l'herméneutique, c'est pour faire cette passerelle. Avant, on n'a pas besoin de la tradition. Alors je crois que ça fait comprendre la différence entre la parole et l'écriture. La parole et l'écriture. L'écriture gardée par l'Église. C'est l'Église qui garde l'écriture. C'est l'Église qui affirme que ça a été écrit sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors si ça a été écrit sous le souffle de l'Esprit Saint, et que Saint Jean dit, Jésus dit, vous croyez que Jean peut dire, Jésus dit, et que ce que Saint Jean dit de Jésus, c'est Jean qui l'a dit, et non pas Jésus. C'est ennuyeux que l'Esprit Saint ne fasse pas de différence. Alors je crois que ça c'est un des problèmes actuels, qui pour moi n'est pas un problème théologique, c'est un problème critique. Oui. Qu'est-ce que c'est que la critique ? Chercher le noyau fondamental, d'où tout le reste peut se comprendre. C'est ça la critique. Et l'herméneutique, c'est un procédé critique. Jean vit dans tel milieu, Luc vit dans tel milieu, bien, on va essayer de comprendre ce que Luc dit en fonction du milieu pour rejoindre la source. Et essayer de découvrir, au point de vue critique, qu'est-ce qu'il y a d'authentique. Alors que le croyant adhère directement à l'écriture comme inspirée. Il n'y a pas de critique. J'adhère à la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, j'adhère au mystère. Et ceci parce que entre la source et l'écriture, il y avait la tradition. Est-ce que vous voyez bien ça ? Ça, c'est important. C'est un des problèmes actuels. Alors, je simplifie un peu. Je donne, je crois, l'essentiel de la chose. Parce qu'il faudrait regarder l'herméneutique chez... Vous voyez, ça vient de Heidegger. Heidegger qui a inventé ça, l'herméneutique de la parole. Vous voyez, il prend cet exemple très simple, Heidegger. Ça, Heidegger, je connais. Mais entre deux, il y en a plusieurs autres que je connais moins bien. Mais Heidegger, c'est lui qui a inventé ça. Alors, Heidegger prend ça pour expliquer une œuvre d'art, le Sphinx égyptien, qui a été mis en fonction de tout un contexte religieux. Ce contexte religieux n'existe plus, et le sphinx demeure. Il s'agit d'expliquer, de comprendre ce que c'est que ce sphinx. Donc il faut rétablir, il faut rétablir dans une herméneutique, une interprétation, tout le milieu de culture, culturelle, où est né ce sphinx. Le sphinx n'est pas né actuellement. Il est né dans une culture. Bon. C'est très légitime pour interpréter comment on a fait cette œuvre d'art. Oui. Mais est-ce que l'œuvre d'art, comme œuvre d'art, s'explique par l'herméneutique ? Pas pour moi. L'œuvre d'art reste une œuvre d'art. Qui a son poids et sa valeur au-delà de tout le milieu. D'abord, c'est la seule chose qui est restée. Oui. Alors, comme il n'y a pas de tradition humaine au point de vue tradition religieuse, ça disparaît. La tradition divine demeure. Depuis le Christ jusqu'à moi, jusqu'à nous actuellement, il y a l'Église. Et l'Église est porteuse de cette tradition. Mais évidemment, l'influence protestante a supprimé la tradition. Donc vous voyez, c'est très intéressant comme question posée. Pourquoi le Concile parle de l'écriture et non pas de la parole ? Parce qu'en effet, le théologien se sert de l'écriture qui m'est donnée. Mais pour le théologien qui vit sa foi, l'écriture est pour lui une parole vivante. Quand vous faites l'exo divina, est-ce que vous faites la différence entre la parole de Jésus, Jean dit, Jésus, pour des adorateurs en esprit en vérité, et l'écriture? Non. L'écriture, vous la recevez comme la parole de Dieu. Et ceci grâce à la tradition. Et cette tradition, c'est l'Église qui me dit que cette tradition est authentique. Et c'est l'Église qui interprète cette tradition. Parce que je vois qu'avec le protestantisme, il y a diverses traditions. Et même avant le protestantisme, toutes les hérésies vont être source d'une tradition. Vous voyez naître maintenant une tradition à partir de Mgr Lefebvre. Il y a une tradition, il y a un milieu qui se forme, une tradition qui se forme. Oui. Je crois que c'est l'explication qu'il faut donner. Et je vous dis, c'est philosophiquement, quand vous aurez le temps, lisez le mythe du Teute dans Platon. C'est extrêmement intéressant. La parole vivante répond, l'écriture ne répond pas. Ah, vous voyez, dans un cours de philosophie, quand on sait qu'il y a un pasteur qui est là et qui écoute attentivement, on voit toute la différence entre la parole vivante et puis l'écriture. Sola scriptura. Les protestants, seule l'écriture. Et l'écriture n'est plus portée par la tradition. Deuxième question. La théologie diminue-t-elle la foi? Je vous ai montré ce matin comment la théologie pouvait exister et devait exister. Et je crois que quand on dit que la théologie doit exister, c'est parce que justement, la théologie, c'est la théologie de l'Église. Nous nous disons théologie de saint Thomas, c'est une erreur. De saint Thomas dans l'Église. C'est la théologie de l'Église avec Thomas d'Aquin. Mais c'est la théologie de l'Église. L'Église a approuvé la théologie de saint Thomas. Donc c'est la théologie de l'Église. Je ne peux pas lire saint Thomas uniquement en me disant comment quelqu'un d'intelligent. Non. Je m'appuie sur saint Thomas, moi, du théologique, parce que dans l'Église, Thomas d'Aquin représente une autorité. Alors on le verra ça. L'Église le reconnaît comme le théologien le plus sûr. Alors, la théologie peut abîmer la foi. Pourquoi? Parce que la foi adhère à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est directement inspirée. Tandis que les conclusions théologiques ne sont pas directement inspirées. Les conclusions théologiques, si elles font partie de la tradition de l'Église, bon, elles sont vraies, sont portées par la tradition. Dire par exemple que la grâce est quelque chose de créé, conclusion théologique. Supprimer cette conclusion théologique, dire la grâce, c'est l'Esprit Saint. Les orthodoxes. C'est pas quelque chose de créé. La grâce, c'est l'Esprit Saint. Bon, un catholique dirait ça, dirait attention. Attention. Vous allez vous supprimer une tradition théologique de l'Église, et cette tradition théologique de l'Église repose sur les théologiens les meilleurs. Et donc, avant de conclure avec eux, faites grande attention. Parce que là, vous diminuez votre foi. conclusion théologique n'a de valeur que si elle est portée par la tradition d'Église, l'enseignement actuel de l'Église. Autrement, attendez, la question de la vision béatifique dans l'âme de Jésus, toute la tradition, jusqu'à la moitié de ce siècle, l'a affirmée. Voilà, quelque chose de nouveau qui apparaît chez des théologiens qui sont des théologiens, je suis persuadé qu'ils font ça avec un désir de bien faire. Je ne juge pas leur intention. Mais je dis, cette conclusion n'est pas conforme à la tradition d'Église. Alors vous allez dire, si vous dites ça, vous supprimez tout progrès dans la théologie. Non. Le progrès dans la théologie demande d'être en continuité. Ce n'est pas des ruptures. C'est la fameuse question d'évolution de la théologie. Et de l'évolution, vous voyez, le progrès qu'il peut y avoir dans les dogmes. Il y a trois dogmes nouveaux. Alors le dogme, qu'est-ce que c'est que le dogme? Ceux d'entre vous qui auraient le temps, le tenez révélé, du père Ambroise Gardeille, reste un livre important à lire quand on fait de la théologie. C'est difficile, vous savez, parce que Ambroise Gardeille est très profond, mais il le dit à propos de la structure de l'âme. Il y a deux manières d'écrire, une manière claire et superficielle, et une manière obscure et profonde. Je choisis la seconde. Alors, moi, c'est honnête, hein. Et on ne peut plus rien lui reprocher après. Parce que si plus c'est profond, plus c'est obscur, plus c'est obscur, plus c'est profond. Alors, il y a le donné révélé. C'est un livre extrêmement intéressant. Quand il est paru, ça a été quelque chose de très, très important. Le donné révélé, qui montre justement comment le donné révélé, c'est l'écriture porté par la tradition et les dogmes. Les dogmes font partie du donné révélé. Ce n'est ni la tradition, ni l'écriture. C'est l'Église qui continue sa mission. Et l'Église, réunie en concile avec le pape, peut définir. C'est-à-dire dire le mystère de Marie dans son Assomption est révélé par l'Esprit Saint. Le mystère de l'Immaculée Conception est révélé par l'Esprit Saint.
Pour le dogme de l'Immaculée Conception, le pape avait quand même vu que c'était quelque chose qui avait existé dans la tradition.
Oui, mais autre chose existait dans la tradition et définie par l'Église. Vous voyez, c'est l'Assomption, c'est aussi. Je me souviens, c'était un bon père dominicain qui me disait au moment de l'Assomption, mais à quoi ça sert? C'est dans la tradition. Ah, c'est pas la même chose. La tradition n'est jamais aussi explicite. Vous voyez, la tradition porte l'Écriture. C'est de bouche à oreille. Vous voyez ? Tandis que le dogme précise que c'est vraiment révélé immédiatement par l'Esprit Saint. Vous voyez ? Et facile de comprendre que toute une catégorie de chrétiens, depuis le début du siècle, n'aime pas les définitions. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire? La définition dogmatique est pour nous quelque chose de merveilleux, parce que ça nous permet d'aller plus loin dans le mystère. Si on cherche la vérité, on aime les définitions dogmatiques. C'est une miséricorde de l'Église et de l'Esprit Saint pour nous. Mais il y en a beaucoup, parce qu'ils disent ça supprime la recherche. Ça ne supprime pas du tout la recherche. C'est au contraire, à partir de là, une nouvelle recherche. Alors derrière tout ça, il y a toute une conception d'intelligence humaine. Il y en a qui aiment le flou. Ah oui, laissez-les dans leur goût. C'est tout. Mais quand c'est flou, ça permet de dire plus de bêtises. Alors je comprends, madame, le flou. Tandis qu'au contraire, quand c'est précis, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Et on n'aime pas ça, c'est très curieux. Là, il y a aussi une petite étude à faire, point de vue critique, qui est très intéressante. Mais qui est très intéressante. Parce que ça, c'est tout de suite, vous voyez, ce que je vous dis ce matin, quand on, ce brave pasteur en train de dire, est-ce que vous croyez au mystère de la faillibilité du Saint-Père? C'est un dogme. Donc j'y crois. C'est objet de foi pour moi. Vous voyez? Tandis que, ah, il faudrait faire, non? Vous voyez? On n'aime pas le dogme. Et on veut ramener une tradition. Et au début du concile, toute une série de théologiens avaient émis le désir que les trois derniers dogmes de l'Église, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité du pape et l'Assomption, soient dits des mini-dogmes. Mais ça n'a pas passé. On a laissé les théologiens avec leurs mini. Mais c'est l'histoire de l'Église, hein. Et ça fait comprendre ce que doit être notre foi par rapport au dogme. Je crois au dogme comme je crois en l'Écriture. Vous voyez, c'est la même foi. Et substantiellement, ça fait appel à la même foi. C'est pas deux choses différentes, comme si on voulait dire « Ah, cela provient de l'Église, cela provient directement de Dieu. » Tout provient directement de l'Esprit-Saint. Avec des instruments différents. C'est ou l'Église, ou les prophètes, ou la tradition. Alors, la théologie apporte la coopération d'intelligence humaine. Si on a affaire à une théologie qui est bonne, qui se sert d'une philosophie réaliste. Ce concours, cette coopération, n'est pas mauvaise. Elle explicite, elle précise, elle évacue certaines erreurs. Mais elle n'est pas mauvaise parce que on sait provient du donné révélé. Et que ça n'a de valeur qu'en fonction du donné révélé. Donc, je ne sépare pas la conclusion de théologie scientifique du donné révélé. Si je sépare la conclusion du donné révélé, alors, à ce moment-là, la conclusion n'a plus aucune valeur. C'est ce qui est très particulier à la théologie et aux conclusions théologiques. Je ne peux pas séparer les conclusions théologiques de l'adhésion au donné révélé. Alors à ce moment-là, c'est le donné révélé qui l'emporte. C'est bien évident, puisque c'est directement inspiré par Dieu. Mais la conclusion théologique sert à mieux comprendre le donné révélé. Et donc précise mon adhésion de foi. À ce moment-là, la théologie n'abîme plus l'adhésion de foi. Au contraire, lui permet d'être plus rigoureuse. Mais si je coupe les conclusions de leur source, les illusions sont moindres que la source. Et donc ça abîme la foi. Et ceci est toujours très important, on comprend ça. Alors c'est là qu'on voit les deux aspects de la théologie science et de la théologie sagesse. Je ne vous lis pas les deux articles de saint Thomas, vous les lirez. Parce qu'il y a deux articles de saint Thomas sur la question de la science et de la sagesse. Alors, je vais essayer de vous l'expliciter. Qu'est-ce que c'est que la science pour Thomas d'Aquin? Parce que le mot « science » a pris des significations multiples. Pour saint Thomas, le mot « science » est encore épistémé d'Aristote. Ça n'a pas bougé d'Aristote à Thomas d'Aquin. L'herméneutique monde, ça n'a pas bougé. Or, qu'est-ce que c'est que la science pour Aristote? La science, c'est la connaissance par les causes. C'est la connaissance par les causes. Or, il y a quatre causes ou cinq causes. Donc, il y a cinq conclusions. Forcément. Je connais par les causes. Vous allez tout de suite comprendre. Quelle est la conclusion de la métaphysique? C'est que l'un est propriété de l'être. L'un est propriété de l'être. L'un est propriété dans le sens de manifestation, dans le sens de gloire, dans le sens que ça exprime ça, le rayonnement de l'être. L'un. Or, je dis, cette réalité est une grâce à sa substance. L'homme existant est un par son âme. Par son âme qui est indivisible, qui est un principe d'être et de vie. Et là, je donne une conclusion scientifique. Pierre, qui est un homme qui existe, il a une unité radicale et fondamentale par son âme. J'explique l'unité par sa cause. C'est une conclusion scientifique. On connaît par la cause. Si vous dites l'homme est multiple quant à ses qualités, et ceci à cause de son corps, par son corps, je donne encore une conclusion scientifique, puisque le corps est cause matérielle. Si je dis que l'homme a une seule fin ultime, qui est la contemplation. Je définis ça par la causalité finale. Quel est le seul bien qui finalise toute ma vie? C'est Dieu, le Créateur. Causalité finale. Si je dis maintenant cet homme est parfait. Cet homme est parfait. Pourquoi? Parce que il est directement conforme à l'homme en soi. Causalité exemplaire. Et si je dis l'homme provient est le fils d'un tel. Causalité efficiente. Au point de vue du corps. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance scientifique ? C'est une connaissance qui se fait par les causes. Qu'est-ce que c'est que la connaissance sapientiale, de sagesse ? C'est une connaissance qui se fait dans la lumière de la cause finale, de la cause ultime, de la cause première, donc de Dieu et du Dieu créateur, ou du Dieu rédempteur. Là, j'ai une connaissance sapientiale qui présuppose la contemplation. Et donc, c'est ce jugement de sagesse se fait à partir de la contemplation. Je ne peux pas porter un jugement de sagesse en dehors de la contemplation de Dieu, du Dieu créateur. Alors, comprenons. La théologie est une science. Saint Thomas précise tout de suite que c'est une science subalternée à la science des saints. Pourquoi dit-il ça ? Parce que toute ma théologie repose sur un acte de foi. Si toute ma théologie repose sur un acte de foi, elle ne repose pas sur l'évidence. Et cet acte de foi, c'est adhérer au mystère. Le mystère du Christ rédempteur. Le mystère de la très sainte Trinité. Qu'est-ce qui voit ce mystère ? C'est celui qui est arrivé au terme dans la vision béatifique. Et donc, ma théologie est une science subalternée à la science des saints, qui est la vision béatifique, qui est le Christ. Elle est subalternée à la vision du Christ. Par le fait même, cette science est toujours une science imparfaite. Comme science, puisqu'elle est subalternée, c'est-à-dire dépendante d'eux. Elle n'a donc aucune autonomie propre. Vous voyez, alors là, j'insiste, parce que c'est ce qui explique ce qui se passe actuellement. C'est que la plupart des théologiens voudraient donner à la théologie un statut analogue aux autres sciences. C'est leur ambition. Ils sont tellement séduits par le caractère scientifique. Oui, c'est vrai, les gens sont terriblement séduits par le caractère scientifique. S'ils écrivent quelque chose, ils veulent que ce soit scientifique. Comme ça, tout le monde acceptera sérieusement. Tandis que c'est pas scientifique, si ce n'est que poétique, on dira oui, c'est un poète. Ne vous inquiétez pas énormément de ce qu'il dit, c'est un poète. Il écrit ça dans une heure où il est en état de grâce. Il reçoit les muses à telle heure. Ce que disait Claudel. Hein. J'ouvre le robinet, une heure, puis je la ferme. Pendant une heure, il est inspiré. Il commandait aux muses. C'était la gloire de Claudel. J'ai entendu mes propres oreilles. Hein. Je n'invente rien. Je rouvre le robinet. Je lui demandais qu'est-ce que c'est que l'inspiration pour vous. Ça m'intéressait, au point de vue philosophie de l'art. D'entendre Claudel me donner ce que c'est que l'inspiration. Alors, il m'a dit, mais très sérieusement, j'ouvre le robinet une heure. Je lui ai demandé s'il y avait de la pression. Ça dépend des jours. Et il a vu le culot d'ajouter, et je ne relis jamais ce que j'ai écrit la veille. Alors ça explique beaucoup de choses. Puisqu'elle aussi est successive. La douche continue. Douche d'eau froide, douche d'eau chaude, douche d'eau tiède. Ça dépendait des jours, selon la pression. Alors, on veut faire de la physiologie une science analogue à toutes les autres sciences humaines. Et on oublie que la science théologique, chrétienne, catholique, est subalternée à la science des saints. Donc, elle est soumise au jugement d'Église. Elle est bien scientifique, mais elle est scientifique imparfaitement. Elle est scientifique pour un pèlerin. Elle est scientifique pour un viator. Pour quelqu'un qui chemine. Pour quelqu'un qui n'est pas dans la vision béatifique. Alors, le raisonnement de la théologie consiste à quoi faire ? C'est de partir de la donnée de foi et d'essayer d'éclairer analogiquement cette donnée de foi par une notion philosophique, métaphysique, un jugement métaphysique pour éclairer et expliciter. Par exemple, je prends l'exemple.
Session d'introduction à la théologie par le père Philippe Arimon, le 30 septembre 1992, quatrième cours.
ne provient pas de la réalité. C'est une idée a priori.
Est-ce qu'on ne pourrait pas fonder le passage du fini à l'infini par rapport au mystère à la grâce de l'union ?
Oui, mais je montre d'abord l'objection. Vous voyez ? Et qu'il faut passer par l'appréhension, la connaissance de la raison d'être, qui elle est infinie. Si je reste dans les modes, la manière d'exister de la créature et de Dieu, il y a une opposition du fini à l'infini. Qu'est-ce qui me permet de passer de l'un à l'autre ? Mais mon intelligence affirme Dieu est infini, je suis fini. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Il y a quand même quelque chose de commun dans cette opposition entre les deux. La raison d'être en elle-même n'est ni finie ni infinie. Elle est au-dessus. Donc, je peux toucher les deux. Mais voyez, c'est ça que j'appelle l'analogie. C'est la connaissance analogique. La connaissance générique et univoque est toujours limitée. Donc elle ne peut pas unir le fini et l'infini. Là, je place un point de vue fondamental, un point de vue critique, si vous voulez. Si mon intelligence humaine n'était pas capable de saisir l'être dans le jugement d'existence, ceci est, elle ne pourrait pas unir à sa manière, analogiquement, le fini et l'infini. Je peux unir le fini et l'infini en saisissant quelque chose qui se réalise d'une manière finie ou d'une manière infinie. L'être, le vrai, le bien, toutes les notions transcendantales. Vous voyez ça ? Pas du tout.
Est-ce que c'est au niveau de l'intelligence ?
Quoi ?
C'est l'intelligence qui...
C'est l'intelligence. Mais du coup, dans l'appréhension.
De la réalité, par exemple pour la parole.
Oui. Ma parole, toute parole humaine, a une signification finie.
Mais pas quand il s'agit du verbe...
Être.
Christ qui assume la nature humaine pour la parole de Dieu, par exemple. À partir du moment où le passage est fait entre les deux natures... Est-ce que la parole du Christ ne peut pas être considérée de fait comme infinie ?
Mais oui, la parole du Christ, parce que c'est une parole de Dieu. Parce que c'est une parole de Dieu. Elle a une signification infinie. Et c'est pour ça que saint Thomas dit à la suite de saint Augustin, je sais que c'est un texte très discuté, que la parole de Dieu a des sens infinis. J'aime mieux dire, a une signification infinie. Et je crois que c'est ça que ça veut dire. Parce que des sens infinis, ça veut dire des quantités de sens. Vous voyez ? Tandis qu'une signification infinie, ça veut dire que la profondeur de la connaissance touche quelque chose qui n'implique en soi aucune limite. Donc une signification infinie. Vous voyez ? Parce que c'est une parole divine. La parole exprime la pensée. Ma pensée est toujours limitée. Mais, tandis que la pensée de Dieu a une connaissance infinie, une profondeur infinie. Et donc si Dieu exprime par une parole ce qu'il est, cette signification est une signification infinie. Parce qu'elle vient de Dieu. Vous voyez ? Tandis que votre parole humaine, sauf quand vous faites de la métaphysique, sauf quand vous faites de la métaphysique, votre affirmation, ceci est, n'implique aucune limite. Puisque je peux dire de Dieu, de l'être premier, il est. L'être n'implique aucun. le bien n'implique aucune limite. Et c'est ça que je veux dire quand on parle d'une notion analogique. Une notion analogique parfaite n'implique en elle-même aucune limite, mais implique des diversités qui vont du fini à l'infini. Ça, je dis que la théologie scientifique doit toujours être saisie au niveau analogique, c'est-à-dire comme impliquant une signification qui n'est pas limitée. Quand je dis que Dieu est Père, la paternité en Dieu a une signification infinie. Il est Père dans tout son être, dans tout ce qu'il est. Donc, il a une paternité infinie. Tandis que la paternité de l'homme est finie, même quand elle est spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Je sais, c'est pas commode, hein, parce que il faut que nous ayons bien saisi au plan philosophique, au plan critique, ce qu'est une notion analogique. Et une notion analogique parfaite, n'impliquant en elle aucune limite. Quand je dis, parce que ça c'est intéressant, la première conclusion scientifique de la somme théologique, c'est de dire Dieu est omnino. Omnino simplex. Tout à fait. Dieu est tout à fait simple. Saint Thomas conclut, question 3, article 1 de la Prima Pars. Donc, la première conclusion scientifique de la théologie scientifique. La théologie scientifique existe dès le moment où saint Thomas affirme Dieu est tout à fait simple. C'est extraordinaire. Et saint Thomas, en affirmant Dieu est tout à fait simple, acquiert l'habitus de la théologie scientifique. Alors, réfléchissez bien sur Dieu est tout à fait simple. Lisez et relisez la question Dieu est tout à fait simple. Vous avez acquis l'habitus de la théologie scientifique. Il suffit d'une seule conclusion. Évidemment, si vous répétez sans comprendre, ça c'est autre chose. Parce qu'alors, le perroquet acquiert l'habitus théologique, scientifique. Il répète. Parce que ce n'est pas dit dans l'Écriture, Dieu est tout à fait simple. Nulle part. Si je dis Dieu est amour, ça peut être une conclusion scientifique, mais ça peut être aussi l'affirmation de la foi, parce que c'est dans l'Écriture. Tandis que Dieu est tout à fait simple, ce n'est pas dans l'Écriture. Or, si j'affirme ça avec certitude, avec nécessité, c'est une conclusion scientifique. C'est la conclusion scientifique par excellence. Mais je crois que toute la somme théologique est comprise entre cette affirmation-là et l'autre affirmation que nous verrons dans le mystère de la très sainte Trinité. Le Père et le Fils sont un dans l'aspiration de l'Esprit Saint. C'est le sommet. Toute la somme se comprend entre les deux extrêmes, l'alpha et l'oméga. C'est toujours intéressant de saisir les deux extrêmes de la pensée théologique de saint Thomas. le point de vue de la tresse, de l'incarnation, c'est une application. Ça ne donne pas quelque chose de nouveau, si vous voulez. Oui.
Et pour la foi, quelle est la valeur de cette conclusion théologique? Elle est de foi?
Ah, non, elle n'est pas de foi, cette conclusion théologique. Mais je ne peux pas la nier. Elle est scientifique. Donc elle n'est pas de foi. Ce qui est scientifique n'est plus de foi. Oui.
Mais dans la mesure où la
théologie... Mais présuppose la foi pour être scientifique. Oui.
La mesure où la théologie se développe dans la foi.
Oui. La foi demeure, mais la conclusion n'est pas une conclusion de foi.
Donc ce n'est pas dans la foi que j'adhère à cette conclusion.
C'est dans la foi que j'adhère à cette conclusion, mais cette conclusion n'est pas la foi. Oui, c'est par la foi, c'est dans la foi que j'adhère à cette conclusion. Je pourrais y adhérer aussi par un point de vue purement métaphysique, mais comme ici on regarde le point de vue théologique. Vous voyez, c'est une explicitation de la foi. J'explicite quelque chose de foi. Le nier serait contradictoire par rapport à la foi. Mais l'affirmation n'est plus une question de foi. Mais c'est subtil, mais c'est ce qui fait comprendre ce que c'est qu'une conclusion scientifique, théologique. Oui.
Vous pouvez préciser la différence qu'il y a entre le découvrir d'une manière purement philosophique et le découvrir d'une manière théologique?
Parce que par la théologie, je pars de la foi. Dieu existe. Il existe comme l'être premier. Comme le Créateur. Je suis. Dieu dit je suis. Et le théologien vient avec je suis tout à fait simple. Oui. Bon, ça, c'est la théologie. Si, au point de vue métaphysique, au point de vue théologie naturelle. Je découvre l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Et je dis, ce Dieu est l'être premier, puisque c'est comme ça que je l'ai découvert. Il est donc acte pur. S'il est acte pur, il n'implique aucune composition. Donc, il est tout à fait simple. C'est le même Dieu. Mais d'un côté, c'est la foi. Et la foi fait que cette simplicité, elle est dans la très sainte Trinité. Vous voyez ? Il y a l'arrière-fond, si vous voulez, de la foi qui adhère à la très sainte Trinité. Ce Dieu trine, il est absolument simple.
Est-ce que si les conclusions ne sont pas de foi ? C'est parce qu'elles ne nous font pas adhérer au mystère d'une personne.
Que?
Parce qu'elles ne nous font pas adhérer au mystère d'une personne. Si les conclusions théologiques, on n'y adhère pas dans la... ne sont pas de foi.
Oui, les conclusions théologiques ne sont pas de foi parce que c'est mon intelligence humaine qui les a découvertes. J'ai coopéré avec Dieu.
Mais est-ce que c'est parce qu'elles ne nous font pas adhérer au mystère d'une personne divine, directement?
Elles ne disent pas ce qu'est Dieu. Elles ne peuvent dire que la manière d'exister de Dieu. Quand je dis Dieu est tout à fait simple, je ne dis pas ce qu'est Dieu. Je dis la manière d'exister de Dieu. Le komodo. Vous voyez ? Mais le komodo est Dieu. Puisque en Dieu, il n'y a pas de différence entre propriété et substance. Puisqu'il n'y a pas d'accident. Tout est sa substance. Tout est infini. Donc c'est quand même Dieu. Et c'est la personne de Dieu. C'est la distinction vient... voyez, le métaxu qui me permet d'affirmer. Dans la foi, j'affirme par l'autorité de Dieu. Dans la conclusion théologique, j'affirme en raison d'une nécessité que mon intelligence voit entre l'affirmation de voix et la conclusion. C'est une nécessité qui s'impose à mon intelligence de croyant. Vous voyez ? Et il y a un métaxu, il y a un intermédiaire. Alors vous voyez, quand je dis, quand, vous voyez, vous allez tout de suite comprendre là aussi la simplicité. Je peux connaître la simplicité au point de vue philosophique. Et quand je dis, oh, cette personne, elle est merveilleuse, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle veut dire, simple ? Elle n'est pas composée. Elle implique quelque chose. Il n'y a pas de ruse, Nathanaël. Il n'y a pas de ruse en lui, il est simple. Il est droit. Mon concept de simplicité reste limité. Il est limité à la pureté de l'eau. Cette eau est pure. Elle est simple. Oui. Tandis que quand je dis tu es tout à fait simple, la simplicité, à ce moment-là, a une signification infinie. Que je ne peux plus saisir parfaitement, ça m'échappe. Je touche le mystère. Dieu est tout à fait simple, c'est une transcendance dans l'ordre de la simplicité, si vous voulez. Et parce que c'est une transcendance dans l'ordre de la simplicité, ça fait éclater mon concept de simple, saisi au plan philosophique, qui subitement s'ouvre au mystère. Et en s'ouvrant au mystère, je ne le possède plus. Je peux que le contempler. Je contemple la simplicité de Dieu. Oui.
La manière de découvrir que Dieu est simple sera-t-elle différente en théologie et en...
Ah oui. D'un côté, je m'appuie sur la foi. La foi me fait adhérer à un Dieu, à un Dieu créateur et le Dieu trine. Oui.
Est-ce qu'à partir de ça, je peux découvrir qu'il est simple ou est-ce qu'il faut que je m'appuie sur la
théologie? Oui, mais la foi, je ne peux pas dans la foi faire abstraction. Ah, je ne regarde que Dieu. Non. Dans la foi, quand je parle de Dieu, c'est toujours le Dieu trine.
C'est du côté de l'extension qu'il va y avoir à la conclusion, on va avoir une extension nouvelle.
Oui. Une profondeur aussi. Oui. Mais matériellement, c'est la même conclusion. Mais formellement, non. Bon. Alors, vous voyez, la conclusion scientifique et l'aspect sagesse. On remonte à la source. Et je me sers de la conclusion pour mieux saisir le principe. Dieu est. Il est tout à fait simple. Il est. Vous voyez ? On remonte à la source. Ça, c'est la connaissance de sagesse. Tandis que la connaissance scientifique s'arrête aux conclusions. Du moins, risque de s'arrêter aux conclusions. Question, toujours pour essayer, comment s'élabore cette connaissance mixte ? La théologie est une connaissance qui implique la foi, qui implique l'intelligence. Et la théologie sera vraie si ma foi est vraie et si mon intelligence est vraie. Et si ma foi est vraie et que je me sers d'une philosophie fausse, la conclusion théologique est fausse. Vous voyez, il faudrait Descartes, notre illustre Descartes. fait une théologie sur l'Eucharistie. C'était les pères jésuites du temps qui avaient demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. C'est intéressant, du reste. Une nouvelle théologie, vous voyez. Il faut toujours faire une nouvelle théologie. Et le premier qui a fait une nouvelle théologie, c'est Descartes. Alors, c'est un traité très, très curieux. Mais ce serait intéressant une fois, puisqu'on doit faire le traité de l'Eucharistie, voir le traité de l'Eucharistie selon Descartes. Et tout est faussé. Et il serait intéressant de faire le traité de l'Eucharistie selon l'abbé de Nantes, quand il critique Thomas d'Aquin. Il a dit ouvertement, Thomas d'Aquin n'a pas, je n'accepte pas la théologie de l'Eucharistie de Thomas d'Aquin. Il s'est mis à donner une autre théologie. Je l'ai lu, mais comme c'était erroné, j'ai rien retenu. Parce que les erreurs, on ne les retient pas, vous savez. On ne retient que la vérité si on a une intelligence qui cherche la vérité. Allez, oubliez les erreurs, heureusement, parce que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'entrer dans le ciel avec des erreurs. Vous devriez faire un tout petit peu de purgatoire avant. Non. Parce que les erreurs, ça brûle. Hein. Ça doit être brûlé, nettoyé. Alors, on va regarder la place de l'intelligence et dans l'affirmation de la foi. Il y a un passage, là encore, dans saint Thomas, qui est extrêmement intéressant. Ceux qui ont fait le traité de la foi s'en rappellent. Je leur avais signalé. Quand saint Thomas parle de l'acte de foi, il dit tout acte de foi implique une adhésion et un cogitare. Très intéressant ça. Tout acte de foi implique une adhésion et un cogitare. Pourquoi? Parce que justement, l'adhésion de foi n'implique pas de nouveaux concepts, mais implique un nouveau jugement. Grâce au nouveau jugement, j'adhère. Dieu est trine. Le Christ est Dieu. L'adhésion de foi adhère à ce qui est révélé. L'adhésion. Cette adhésion est une adhésion volontaire, donc qui implique un amour divin, un amour surnaturel. Je ne peux pas adhérer de foi sans amour. Pourquoi? Parce que ce à quoi j'adhère n'est pas évident pour mon intelligence. Alors, j'adhère par amour de celui qui me parle. Dieu me parle et j'aime Dieu. Dieu ne peut pas me tromper et donc j'aime la vérité. J'adhère parce que c'est Dieu qui me parle. Oui. Donc, dans toute adhésion de foi, il y a le point de vue de la volonté. Il y a le point de vue de l'amour. Autrement, il n'y a pas d'adhésion de foi. Mais cette adhésion de foi se fait par rapport à une réalité, une proposition qui exprime cette réalité, qui n'est pas évidente. La réalité reste obscure. C'est pas évident cette réalité. Donc, mon intelligence n'est pas déterminée dans déterminé dans son jugement d'existence, mais pas dans son appréhension. Et ça qui est très curieux dans l'adhésion de foi, c'est que l'aspect du jugement dépasse l'appréhension. J'adhère à quelque chose que j'ignore. Je n'ai pas l'évidence. Mais j'y adhère à cause de l'autorité de Dieu qui me parle. C'est pour ça que saint Thomas dit cette chose très intéressante. Que la foi ne me donne pas de nouveaux concepts. Et vous voyez, ceci c'est très très intéressant parce que ça légitime radicalement la théologie. La foi ne me donne pas de nouveaux concepts. Si la foi ne me donne pas de nouveaux concepts, il y a donc ces concepts que l'intelligence possède, qui sont des concepts que l'intelligence possède naturellement. Et ces concepts que l'intelligence possède, naturellement, je peux les purifier. Et c'est la théologie qui purifiera ces concepts. Et parce que il n'y a pas de nouveaux concepts, il reste un cogitare. Cogitare, c'est une recherche. Je cogite. Quand vous dites que vous cogitez, ça veut dire vous cherchez. Quand vous avez découvert, vous adhérez. Ou vous contemplez. C'est pas la même chose. Cogitare. Je cogite. Je pense. Mais penser avec, je dis pas une inquiétude, mais pensez avec l'idée de recherche. Donc c'est une pensée imparfaite. Il y a un cogitare dans toute adhésion de foi. Et ce cogitare dans toute adhésion de foi permet que l'intelligence humaine pénètre dans l'adhésion de foi. N'est pas extérieur. S'il n'y avait aucun cogitare, l'adhésion de foi ne ferait pas appel à l'intelligence, à la philosophie. Mon adhésion de foi serait parfaite. Dans la vision béatifique, est-ce qu'il y aurait une théologie? Non. Dans la vision béatifique, il n'y aura plus de théologie. Mais il y aura une théologie encore dans nos conversations. Extraverbum. On se retrouvera et on discutera théologique. Mais d'une manière admirable. Parce qu'il y aura la vision béatifique. Donc il y aura toute l'activité de l'intelligence qui sera assumée par la vision béatifique. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme question?
Notre intelligence laisse la place au mystère, ça veut
dire. Exactement. L'intelligence s'incline devant le mystère et y adhère par la volonté de Dieu, par amour. Quoi?
On arrive à une sorte de convergence par notre intelligence.
Il n'y a jamais de convergence absolue. Il y aura toujours entre l'adhésion et le cogitare un abîme. Mais la même orientation. Oui. L'adhésion atteint immédiatement le mystère. Le cogitare tourne autour. Et c'est le périphérique. Il tourne autour. Indéfiniment. Quand vous tournez 100 fois autour de Paris, pouvez pas dire que vous connaissez Paris. Vous êtes tourné 100 fois. Vous avez montré toute votre générosité. Mais impossible d'y entrer. Ça, c'est ce que je dirais. L'intelligence tourne autour du mystère, mais Niel ne peut pas entrer dedans. Oui.
Vous avez souvent dit qu'il n'y a pas de concept de Dieu.
Il n'y a pas de concept nouveau donné par la révélation, par la foi. Il y a une nouvelle adhésion de foi.
Mais est-ce qu'il y a un concept de Dieu?
Non. Aucun.
Et pourtant, quand j'évoque le mot Dieu...
Qu'est-ce qu'il y a?
Quand je dis le mot Dieu...
Oui, c'est un nom.
Le nom Dieu, ça reste pas... Ça suggère un certain nombre de choses, quand même.
Oui, mais c'est un nom. Il n'y a pas de concept. Aucun concept de Dieu. Il y a un concept d'être. Il y a l'affirmation Dieu existe. Et quand je dis que Dieu existe, je sais que je n'ai pas de concept de lui. C'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Sartre. Sartre dit, s'il y avait un concept de Dieu, ce ne serait pas Dieu. Parce que je mesurerais Dieu. Alors c'est pas tout à fait juste, mais c'est quand même assez juste. Il n'y a pas de concept de Dieu. Dieu échappe complètement. Il y a un nom. Dieu est un nom. Et ce nom, c'est les traditions religieuses qui le charrient. C'est le nom du Créateur, de celui qui me transcende complètement. Je peux avoir un nom d'une réalité qui m'échappe. Mais je n'ai pas de concept. Concept, regarde ici, l'appréhension. Vous voyez ? Tandis que le jugement, c'est la seconde opération d'intelligence. Alors, vous voyez, ce qui serait très intéressant, c'est de voir la diversité de ce cogitare. Ce cogitare peut être inclus dans l'adhésion de foi. Ce cogitare peut être extrinsèque. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple pour que vous compreniez mieux, que vous saisissiez. Quand je dis Dieu est tout à fait simple, vous voyez, je me sers donc de simple. C'est intrinsèque à l'adhésion de foi. Dieu est tout à fait simple. Tandis qu'autrement, quand le cogitare va être au niveau herméneutique, est-ce qu'il est intrinsèque à l'adhésion de foi? Quand je fais le cogitare au niveau exégétique de l'exégèse, est-ce qu'il est intérieur à l'adhésion de foi? On n'a jamais traité le problème de cette manière-là. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de creuser ça. Oui.
Les exégètes disent que la foi est nécessaire pour faire une exégèse qui soit...
Font-ils différence entre la foi catholique ou la foi protestante?
Les exégètes catholiques, enfin, qui font une bonne exégèse, disent que la foi est nécessaire.
Oui, mais ils acceptent les conclusions de la foi protestante. Aujourd'hui, couramment.
Hein? Le concile...
Quand les exégètes disent que c'est nécessaire d'avoir la foi, oui, c'est vrai, puisqu'ils considèrent que c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que la foi illumine la recherche? Est-ce que la foi détermine la recherche? Elle la finalise. Comme pour l'apologétique. Le cogitare pour l'apologétique. C'est vrai, l'apologétique présuppose la foi, mais le cogitare est indépendant de l'adhésion de foi. Simplement au niveau finalité. C'est pour ça que l'apologétique est rhétorique. C'est pas la théologie. Le cogitare de l'exégète porte sur quoi? Il porte sur le milieu historique dans lequel cette parole de Dieu a été transmise. Il porte sur, point de vue philologique, il porte sur tous les lieux parallèles dans l'écriture. Ce cogitare n'est pas commandé par l'adhésion de foi. Matérialitaire, il est lié à l'adhésion de foi, mais pas formalitaire. C'est pour ça qu'au fond, au bout d'un certain temps, ils peuvent s'allier à l'exégèse protestante.
Ça, c'est l'exégèse déviée de ce qu'elle est normalement. Parce que l'exégèse telle qu'elle est normalement doit être...
Mais pourquoi est-elle déviée?
Parce qu'elle s'est coupée de la foi. Ah.
Parce que la foi n'intervenait pas directement dans leur recherche scientifique. Mais les très bons exégètes, comme le père Feuillet, comme le père Dreyfus, la foi intervient pour eux, ça c'est sûr. Et leur cogitare n'est pas indépendant de la foi, il reste soumis à la foi. Tandis que beaucoup d'autres, c'est le cogitare qui détermine leur conclusion scientifique. Vous voyez? Parce qu'au fond, l'exégèse aujourd'hui, elle part dans tous les sens. Il y a là un problème, je ne vais pas discuter plus, mais c'est seulement pour rappeler qu'il y a là une question dans saint Thomas qui est très intéressante, c'est l'adhésion de foi et le cogitare dans l'adhésion de foi. Et ce cogitare peut déborder, être extrinsèque à l'adhésion de foi, mais relié dans l'ordre de l'exercice à l'adhésion de foi, mais pas donc matérialitaire. Mais pas formellement. Ça, c'est la place de l'intelligence dans la foi. Alors, encore une question. Puis-je me servir de n'importe quelle philosophie? Oui, là, je reviens avec le cas du taré. Le cogitare est mesuré par la foi. Si je suis en théologie, il est à l'intérieur de l'adhésion de foi. Donc le cogitare est mesuré par l'adhésion de foi. Or, l'adhésion de foi implique un jugement d'existence. Et l'adhésion de foi implique une adhésion à la finalité. Toute adhésion de foi implique les deux. Je crois que je ne peux pas avoir une adhésion de foi qui est vous voyez, dont le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Je ne peux pas. Dans la philologie, le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Le jugement d'existence est présent dans toute adhésion de foi. Et la finalité est présente dans toute adhésion de foi, puisque la foi est ordonnée à la vision béatifique, qui est ma nouvelle fin. Par le fait même, ne peut aider une adhésion de foi, ne peut coopérer à l'adhésion de foi qu'une philosophie qui implique le jugement d'existence et qui implique la finalité. Alors ça me semble très très intéressant pour nous. Parce que vous pouvez tout de suite voir que toute philosophie qui n'est pas réaliste, Descartes, s'il veut faire une théologie, au bout d'un certain temps, tout sera corrompu. Pourquoi? Parce qu'il développera avec sa philosophie ce qui est extrinsèque à l'adhésion de foi. Donc il fera un monstre.
c'est la manière dont apparaît la nécessité. Je veux dire, par exemple, en théologie, c'est l'adhésion de foi, la nécessité. Je crois nécessairement, c'est bien. Tandis que pour l'exégèse, la nécessité vient plutôt de l'aspect scientifique.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que l'aspect scientifique, la détermination, la nécessité implique la détermination. Oui, la détermination ne vient pas de l'adhésion de foi. Donc le caractère de nécessité est extrinsèque à l'adhésion de foi. Une idéologie qui fait abstraction du jugement d'existence, qui regarde le possible, qui ne regarde plus le point de vue de la finalité humaine. Une idéologie, si elle s'allie à la foi, fait dérailler le théologien. Parce que l'idéologie va développer dans la parole de Dieu ce qui n'est pas atteint par la foi. Oui. Ce qui n'est pas relié au mystère. Donc l'aspect humain de la parole de Dieu et uniquement l'aspect humain. Voilà. Alors on continuera lundi de voir les autres aspects, puis vous y réfléchirez, et si vous avez